Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'immerger dans une période qui a marqué la France au fer rouge, la Première Guerre mondiale.
Oui, mais on va le faire d'une manière un peu différente.
C'est ça. On va regarder cette période à travers un prisme très local, très humain, celui des Aveyronnais.
Et pour ça, on a une source vraiment fascinante.
Absolument. C'est un bulletin spécial du Cartoclub Aveyronnais, le numéro 58, intitulé « Les Aveyronnais dans la Grande Guerre ».
Et ce qui est incroyable avec cette source,
c'est que tout le récit, toute l'analyse repose sur un objet qu'on pense tous connaître.
La carte postale.
Exactement. On va voir que ce petit bout de carton était en fait un média d'une puissance folle à l'époque.
Et c'est ce qui rend l'approche passionnante. Partir d'un objet aussi commun pour raconter une histoire aussi immense. Il faut d'ailleurs saluer le travail derrière ce bulletin.
Oui, il est guidé par Gilbert Régourd, qui est l'auteur principal et aussi le président du club.
Il y a aussi les contributions de Pierre Costecalde et Guy Mazars. Et d'ailleurs, une mention spéciale pour Guy Mazars, qui est le rédacteur en chef et qui est remercié pour toute la mise en page.
Une mise en page qui est magnifique et qui s'appuie sur un très très grand nombre de ces fameuses cartes postales.
Notre mission aujourd'hui, c'est donc de voir comment ces images et les mots écrits au dos ont pu raconter la guerre.
Alors, pour bien comprendre ce qui se passe en 1914, le bulletin nous fait remonter un peu le temps.
Avant la guerre.
Oui, dans cette ambiance d'avant-guerre. On est dans une France, et donc un Aveyron, qui vit encore dans l'ombre de la défaite de 1871.
On parle de l'esprit de revanche.
C'est ça, un patriotisme très, très intense. Et ce n'est pas juste dans les discours politiques, hein. C'est visible, partout.
Visible comment ? Concrètement, ça se manifeste comment ?
Par exemple, avec l'inauguration de monuments aux morts pour la guerre de 1870. Le bulletin explique que c'était des véritables fêtes de la revanche.
C'était une façon de garder la flamme allumée, en quelque sorte.
Exactement. Préparer les esprits. Et en Aveyron, il y a un exemple qui m'a marqué.
Lequel ?
Celui du monument de Millau, inauguré en 1897. La description est saisissante. On y voit une Marianne.
Classique.
Pas tant que ça. Elle est coiffée d'une couronne en forme de ville fortifiée et surtout, elle est habillée d'une capote de soldat.
Une Marianne en uniforme, 20 ans avant la guerre?
Oui. Et elle tient une épée, la pointe vers le bas, en signe de résistance. L'imagerie est déjà incroyablement martiale.
L'image est très forte. Et j'imagine que cette préparation des esprits, ça touchait aussi les plus jeunes.
Ah mais complètement. C'était même une priorité. On parle des bataillons scolaires, où on apprenait carrément le maniement des armes aux enfants.
Incroyable.
Et il y avait toutes ces sociétés de gymnastique avec des noms très évocateurs.
Du genre
La Revanche, Affirmy, L'Alerte ou La Patriote à Decazeville. Et les cartes postales analysées dans la source montrent ces jeunes garçons en uniforme qui posent fièrement. On cultive vraiment l'idée du sacrifice.
D'accord, mais est-ce que tout le monde marchait au pas ? J'ai du mal à croire qu'il n'y avait aucune résistance à cette militarisation de la société.
Et vous avez raison de vous poser la question. Le bulletin montre bien que cette unanimité est une illusion. Le débat sur la loi des 3 ans...
qui allongeait le service militaire.
Voilà, ça a déchiré la classe politique aveyronnaise. Et à côté de l'enthousiasme pour, la course à l'armement.
Comme les souscriptions pour acheter des avions à Milou et Rodez.
À côté de ça, il y avait des courants pacifistes bien réels.
Par exemple.
La source met en lumière 2 cas. D'abord, la mutinerie des soldats du 122e régiment d'infanterie à Rodez en 1913, justement contre cette loi.
Ah oui, quand même.
Et puis, il y a une figure féminine incroyable.
Racontez.
Antoinette Covin, qu'on surnommait la citoyenne Sorgue. Elle dénonçait publiquement les requins financiers qui poussaient à la guerre et elle appelait les ouvriers à ne pas devenir de la chair à canon.
Attendez, une femme qui dénonce les requins financiers en 1913, c'est une modernité d'un courage fou.
C'est une voix discordante, oui. La preuve que la société était bien plus fracturée qu'on l'imagine.
C'est dans cette ambiance complexe que tout bascule.
Voilà. Le 5 août 1914, le 122e régiment de Rodez reçoit l'ordre de départ.
Et là, j'imagine que la carte postale, notre fil rouge, change complètement de rôle.
Instantanément. Son premier rôle, c'est de construire l'ennemi. L'empereur Guillaume II, qui était plutôt respecté, devient en quelques jours le Boche, le barbare.
Et on le voit sur les cartes postales.
C'est flagrant. Les auteurs montrent 2 cartes. Une de 1910, avec la famille impériale, les gens neutres. Et une autre, éditée à Rodez après la mobilisation, qui reprend la même photo avec une légende pleine de rage. Famille impériale, Boche. Le ton est donné.
Et en miroir de cet ennemi, on construit le héros français, le poilu.
Le fameux poilu. Et au début, il a l'image qu'on connaît tous.
Le pantalon rouge Garance.
C'est ça. Le pantalon rouge Garance, le fusil Lebel, les cartes fantaisie le montrent fier, sûr de lui.
Sauf que ce pantalon rouge sur un champ de bataille...
C'est une cible parfaite, oui.
La réalité a dû vite s'imposer.
Très vite.
Du coup, on change d'uniforme. On passe au bleu horizon, bien plus discret, et le casque adrien arrive pour protéger les éclats.
Et ça aussi, on le suit sur les cartes postales.
C'est ça qui est fascinant. L'évolution de l'uniforme est visible directement dans l'iconographie. On peut presque dater une carte juste en regardant comment le soldat est habillé.
On a donc cette imagerie officielle presque propre. Mais ce qui est écrit au dos, ça raconte la même histoire ?
Alors là, pas du tout. C'est là que le contraste est le plus violent.
C'est-à-dire ?
D'un côté, on a des cartes qui folklorisent la vie des tranchées, avec des scènes presque drôles. Et de l'autre, on a les mots des soldats. Le bulletin cite une lettre d'Adrien Crow.
Et il dit quoi alors ?
Il décrit les boyaux remplis de boue jusqu'au ventre, la tension permanente.
Ça devait être un choc pour les familles.
Et ce n'est pas tout. Il y a un témoignage encore plus fort, celui d'Hippolyte Trou. Il écrit qu'il est à 2 mètres sous terre, dans sa taupinière.
Une taupinière ?
Oui, et que chaque tir d'artillerie le secoue comme s'il était enfermé dans un tonneau sur lequel on frapperait avec une massue.
Cette image du tonneau, c'est absolument terrible. On sort de la propagande pour entrer dans l'horreur pure.
Exactement. Ces mots, griffonnés au crayon, ils montrent le fossé immense entre le discours de l'image et la réalité du bourbier.
Et pendant ce temps, à l'arrière, on a Véron, comment est-ce qu'on se mobilise ?
Alors ça, les auteurs appellent ça les offensives de l'arrière. C'est un élan de solidarité et d'organisation colossale.
Des associations, des collectes ?
Oui, pour tout. Le bulletin donne des exemples très concrets. Le tricot du soldat qui collecte des vêtements chauds, du tabac pour nos soldats ou encore la journée du 75 pour acheter du matériel pour le fameux canon 75.
Chacun participe comme il peut, mais une guerre, ça coûte une fortune.
Et pour ça, il y a les emprunts de la Défense nationale. Et là encore, la carte postale est un outil de propagande majeure.
Avec des messages forts, j'imagine.
Des messages d'une puissance psychologique terrible. Il y en a une qui montre un soldat dans une tranchée avec ce texte. « Je donne ma vie, versez votre or ».
C'est d'une violence, c'est direct. La pression sur ceux qui restaient devait être énorme.
C'est une forme de culpabilisation, oui. Et au cœur de cette mobilisation de l'arrière, il y a les femmes.
Bien sûr. Dans un département rural comme l'Aveyron, elles ont dû faire tourner les fermes.
Essentiel. Mais pas seulement. Il y a aussi les usines.
Les munitionnettes ?
Exactement. Celles des aciéries de Decazeville qui fabriquaient les obus. Elles ont eu un rôle absolument capital.
Et Rodez, la préfecture, quel est son rôle dans tout ça ?
Rodez devient une immense ville de garnison. Un carrefour, mais la guerre s'y matérialise très vite de manière plus sombre. Dès septembre 14, les premiers convois de blessés arrivent.
Et il faut les loger, les soigner ?
Oui, il faut trouver de la place et vite, on réquisitionne. Le lycée de garçons devient l'hôpital complémentaire numéro 21, le séminaire aussi.
La ville se transforme en hôpital.
C'est un peu ça. Le département va compter une trentaine d'hôpitaux temporaires. Le bulletin reproduit même un rare photoreportage dans l'un d'eux, sans doute à l'institution Saint-Joseph.
Donc on prend en charge les blessés. Mais pour les disparus ?
L'angoisse des familles sans nouvelles.
Une angoisse terrible.
Et c'est là qu'intervient une figure clé, Émile Vigarier. Il va présider le comité aveyronnais de renseignement aux familles, une structure qui va remuer ciel et terre pour retrouver la trace des soldats.
Le bulletin parle aussi des prisonniers de guerre, j'imagine.
Oui, et dans les deux sens, ce qui est très intéressant.
C'est-à-dire ?
D'un côté, on a les aveyronnais prisonniers en Allemagne. On voit une carte envoyée par Paul Gouzy depuis le camp de Göttingen. Mais il y a aussi l'inverse.
Des prisonniers allemands en Aveyron ?
Exactement, c'est un aspect moins connu. On les utilisait comme main-d'œuvre. La source montre une carte postale assez surprenante.
Ah oui, d'accord.
On y voit ces prisonniers en train de construire une ligne de chemin de fer près de Linkou, encadrée par des soldats français. La guerre est bien présente sur le sol aveyronnais.
Cette guerre a aussi fait émerger des figures, des héros. Qui sont ceux que l'Aveyron retient ?
Évidemment, les grands chefs militaires comme le général de Castelnau ou le maréchal Foch, qui a été lycéen à Rodez.
Mais pas seulement les généraux, j'imagine.
Non. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Les auteurs mettent en avant 2 ingénieurs de Villefranche de Rouergue, Jean Vivien et Gustave Bessières.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont inventé la grenade à fusil VB, une arme redoutable qui sera produite à 60 millions d'exemplaires.
60 millions ? Une grenade inventée à Villefranche et utilisée sur tout le front ? C'est fou.
Mais derrière ces figures, il y a le bilan humain.
Il l'est chiffré ?
Oui, et le chiffre est brutal. 11 974 morts. Pour le seul département de l'Aveyron.
Près de 12 000. C'est un traumatisme immense, une saignée démographique terrible pour un territoire rural.
Une saignée, c'est le mot.
Et comment? Comment on fait face à un tel deuil collectif une fois la paix revenue?
Par le souvenir, c'est le temps des monuments aux morts. À partir de 1922, chaque commune, ou presque, veut le sien. Et les cartes photos de l'époque, analysées dans la source, immortalisent ces inaugurations.
C'est un besoin de se souvenir collectivement.
Et c'est là qu'on retrouve Émile Vigarié.
L'homme du comité de renseignement.
Oui, son travail ne s'arrête pas. Il se lance dans une œuvre titanesque, la publication du Livre d'or de l'Aleyron.
C'est quoi?
C'est un ouvrage qui recense, commune par commune, le nom de chaque soldat du département mort pour la France. Un travail de mémoire phénoménal.
Donc si on résume, ces cartes postales, ce sont bien plus que des souvenirs.
Ah oui, bien plus. C'était à la fois un outil de propagande, un lien de vie, souvent censuré, entre le front et l'arrière. Et surtout, au verso, c'était le témoignage le plus intime de la peur, de l'espoir, de la souffrance.
Elle montre ce fossé entre le discours héroïque et la réalité.
Exactement. Le fossé entre l'image officielle et la réalité insoutenable des tranchées.
Et le bulletin se termine sur une note qui ouvre une autre porte.
Oui. Une carte-lettre de 1919, qui est en fait un tract politique.
Qui oppose le vaillant ouvrier Jean Prolo à la propagande sociale anarchiste bolchévique.
Et c'est une conclusion parfaite, parce que ça soulève une dernière question, en fait.
Laquelle?
Après 4 ans d'union sacrée, où on a mis les divisions politiques de côté, comment une épreuve aussi terrible a-t-elle transformé les fractures sociales et politiques en Aveyron? Une fois les armes déposées, quelle nouvelle bataille idéologiques, cette fois, ont commencé sur les ruines de l'ancienne société.
C'est une question qui résonne bien au-delà de l'Aveyron.